les enfants de Cronos.
Bonjour à tous, je suis Gilles Baudin et je suis président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis. Je vous ai donc parlé de la découverte des arènes de Senlis au XIXe siècle et puis précédemment de l'ambiance de recherche archéologique qu'il existait à cette époque et du Senlis antique au 1er siècle. Mais à quoi ressemblent les arènes de Senlis aujourd'hui? En arrivant de Crépy-en-Valois, par exemple, vous allez contourner le centre de ville de Senlis par le nord, c'est-à-dire par la route départementale 924, qui est établie sur le mail, à l'emplacement des anciens remparts médiévaux. Au XIXe siècle, on a arasé ces remparts pour ménager cette route départementale qui est aujourd'hui plantée de grands arbres. Et vous arrivez sur la place de Creil, aujourd'hui place des Arènes. La route, la RD 924, à cet endroit, porte le nom d'avenue Félix Vernois, en hommage à l'inventeur des arènes. Et cette voie traverse la place qui est centrée par le monument érigé en souvenir du centenaire de l'élection du Capet. C'est un obélisque qui est couvert du monogramme du Capet. Donc on traverse cette place et la voie se poursuit à travers un jardin public, qui est le jardin public des arènes, que vous ne pourrez pas traverser en voiture, même si la voie est goudronnée, il faut faire le tour, pour aboutir à la grille du site archéologique. L'avenue Félix Vernois se prolonge au-delà de la grille qui ferme l'enclos sauvegardé des arènes. À l'occasion des journées du patrimoine en septembre ou des journées nationales de l'archéologie en juin par exemple, la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis vous accueille et vous ouvre les portes. Vous suivez donc le chemin herbeux en pente douce, bordé de cognassiers, superbes au printemps quand ils sont en fleurs, puis, après une petite courbe, bordé d'ifs et de colonnes de diverses époques, mais la plupart antiques. Le chemin est entouré de jardins potagers et vous vous retrouvez dans un cadre de verdure calme et riant et qui, en plein été, prend des petits airs d'Italie. Je vous propose de ne pas descendre tout de suite dans le monument, mais de vous rendre à gauche sur la partie la plus élevée des gradins pour avoir une belle vue d'ensemble. L'amphithéâtre s'offre à vos regards. L'édifice dans son ensemble mesure 90 mètres de grand axe, c'est-à-dire d'est en ouest. Il s'agit d'un édifice semi-excavé, c'est-à-dire que sur les bords de ce petit plateau qui domine la vallée de la rivière Nonette, on a creusé la cavea, la cuvette si vous voulez, de l'amphithéâtre, pour y établir au plus bas l'arène elle-même. L'arène, c'est-à-dire le sable sur lequel auront lieu les spectacles. Les terres de déblaiement de la construction ont servi à consolider l'édifice du côté sud, côté de la pente, et à édifier l'étage supérieur des gradins. Un mur extérieur, corona, ça a pu donner couronne en français, aujourd'hui disparu, plus puissant au sud, délimitait l'ensemble. Vous retrouvez un même type de construction, encore de nos jours, à Trèves, en Allemagne, sur les rives de la Moselle. En bas, au centre, devant vous, se trouve l'arène proprement dite, c'est-à-dire la piste autrefois en sable où se déroulaient les spectacles, les combats, peut-être des duels de gladiateurs, certainement des scènes de chasse et des combats d'animaux. L'arène a une forme d'ellipse pour favoriser la proximité du spectateur avec le spectacle. C'est la forme géométrique qui permet de ne jamais être trop loin de ce qui se passe au centre de l'arène. L'arène proprement dite mesure 41,50 m de grand axe, d'est en ouest, et 34,40 m d'axe nord-sud. Elle est entourée d'un haut mur de 1,60 m de haut qui délimite la première rangée de gradins qu'on appelle podium. Le mur est constitué de grosses pierres parallélépipédiques taillées et les rangées les plus hautes ont été reconstituées au 19e par des pierres plus petites pour faire présentation. L'assise supérieure du mur est constituée d'une corniche fortement moulurée surmontée d'un parapet en pierre, on appelle ce parapet le Baltéus. On a pu retrouver quelques pierres de ce parapet et les remettre en place aujourd'hui. Sur ce Baltéus, on pouvait trouver une grille au-dessus car on a retrouvé les logements de cette grille. Les spectateurs bénéficiaient donc d'une protection de 2,50 m par rapport à l'arène, sans compter la grille éventuelle. L'arène comportait deux puisards pour recueillir l'eau. C'est une disposition exceptionnelle et ça laisse à penser que voici 2000 ans, la météo à Senlis, c'était peut-être la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il pleuvait de temps en temps. Les puisards trouvent leur justification également car le sous-sol est en pierre et cette pierre était probablement assez imperméable. Les gradins sont aujourd'hui entièrement gazonnés, mais ils étaient autrefois, pour les rangées les plus basses en tout cas, dallés. Deux autres rangées de gradins surmontent la première. Donc la media cavea, c'est-à-dire le milieu du monument, la cavea désignant la disposition intérieure de l'amphithéâtre, et la summa cavea, c'est-à-dire les gradins les plus hauts, partie presque entièrement arasée aujourd'hui, où nous nous trouvons. Cette dernière rangée ne possédait peut-être pas de gradins en pierre. Autrefois comme aujourd'hui, moins vous payez, moins bien vous êtes assis. Nous retournons maintenant sur nos pas pour descendre dans l'arène. Dans les temps antiques, une porte donnait sur un portique à colonnes formant vestibule avant d'amorcer la descente. Une fois entrée, en face, une autre porte monumentale donnait accès à un large passage de 4,81 m de large qui descend jusqu'à l'arène. Il est formé de murs en petit appareil avec arcades décoratives et moulures indiquant la pente de la voûte qui le couvrait autrefois. Tout en bas, de part et d'autre de ce couloir d'accès, qu'on appelle un vomitoire, en bas donc, s'ouvrent deux loges, une à gauche, une à droite, qui ont également un accès propre dans l'arène. Il s'agit de carcérès, ou locaux de service, pour les spectacles. Deux escaliers permettaient, un à droite, un à gauche, de gagner le podium, la première rangée des gradins, en passant au-dessus de ces carcérès. De l'autre côté de l'arène, symétriquement, un vomitoire semblable, c'est-à-dire un grand couloir d'accès ou de sortie, avec deux autres loges, permettait de sortir de l'édifice vers l'ouest. Dans l'arène, deux petites loges, probablement de petits temples, ont été ménagées dans les murs du podium avec un accès direct à l'arène, un au sud, un au nord, sous la loge au sud et sous une petite scène au nord. Ces deux salles présentent des niches, sept niches au sud et trois niches au nord, et ces niches pouvaient recevoir des statues de dieux auxquelles on confiait son destin. On a en effet retrouvé deux statues, deux torses de deux statues, une peut-être d'Hercule, une peut-être de Neptune, et une tête de Vénus peut-être. Les gradins au nord et au sud sont pourvus de deux couloirs accessoires, ce sont des vomitoires encore une fois, et ce sont des vomitoires de service. Ils desservent les rangées basses et moyennes des gradins. Notons que les notables étaient installés au sud, sur le podium, la première rangée des gradins donc, dans la loge au nord, et ils avaient le soleil dans le dos, donc la meilleure place pour assister au spectacle. Les journées nationales de l'archéologie et les journées du patrimoine sont l'occasion de journées portes ouvertes aux arènes, où nous vous accueillons gratuitement en compagnie d'archéologues, membres ou non de la société. À cette occasion, la société met en œuvre des animations, comme la démonstration de toges ou des visites commentées. Lors des dernières journées du patrimoine, nous avons compté plus de 1400 visiteurs. Nous faisons également visiter les arènes aux groupes constitués, aux sociétés d'histoire et aux écoles, et nous entretenons un partenariat avec l'Office de tourisme de Senlis et le service culturel de la ville. Voilà, il ne vous reste plus qu'à découvrir ou à redécouvrir ce monument, vraiment impressionnant et si mal connu.